Bassim Otard au théâtre de verdure de Gap. Avis aux amateurs de sensations fortes défiant les lois de la gravité, des chevaliers héroïques et leurs montures d'acier s'engagent dans une série d'acrobaties hallucinantes sur la paroi du mur de la mort. Ne manquez pas de voir ce spectacle dans le cadre du festival Tous dehors enfin pour faire monter votre taux d'adrénaline. Plusieurs rendez-vous s'offrent à vous ce vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai à 16h, 18h. Et autres représentations à 20h. La troupe de casse-cou profite d'un moment de pause entre deux répétitions pour répondre aux questions périlleuses de Fréquence Mistral Gap. Là, on peut pas faire mieux, on est en plein cœur du mur de la mort. Je suis en compagnie de deux des membres du groupe et ils vont un peu nous présenter ce concept spectaculaire, mais toutefois allié aussi à un univers scénaristique. On va expliquer tout cela. C'est présenté par la ville de Gap, en association avec le théâtre La Passerelle, que nous connaissons bien, notre partenaire. Et je suis en compagnie de...
Lauriane.
Enchantée. Et...
Vincent.
Alors, Vincent et Vince, donc, pour Fréquence Mistral. On va un peu parler d'abord de ce mur, qui est un monument historique. Peu de gens le savent, peut-être. Peut-être faire un petit historique de ce mur particulier.
Alors c'est un mur qu'on a récupéré, qui était en très mauvais état. On l'a réhabilité et l'idée, on a réussi à le faire inscrire au monument historique.
Très bien. Et je crois qu'il date des années 30, c'est ça ?
Voilà, on a réussi aussi à voir un petit peu toute l'histoire de cet entresort forain. Quand il arrive en France, alors on ne sait pas trop s'il vient des États-Unis ou s'il est construit ici, mais on arrive à peu près dans les années 30-40.
On va un peu parler de la troupe. Vous vous êtes constitué à quelle période ? Ça fait combien de temps que vous bossez ensemble ?
C'est un groupe qui s'est constitué petit à petit, je dirais, même si on se connaît tous depuis en fait assez longtemps. Et il y a beaucoup de frangins et de frères et sœurs dans ce groupe-là aussi. Et alors, il y a eu un premier... Il y a trois personnes au départ qui sont vraiment à l'origine de cette histoire, qui sont Gérard Crinière, Bruno Marchand et Vincent Estac, qui ont donc dégoté ce mur. C'était en 2004, je crois, qu'ils l'ont acheté. Pendant plusieurs années, ça a été vraiment de le remettre en état, de le restaurer, de refabriquer la cuve qui était complètement pourrie. Et de réhabiliter pour pouvoir aussi avoir l'habilitation à recevoir du public et en faire un lieu, pouvoir faire revivre en fait cette architecture dont on était totalement tombé amoureux, quoi, qui nous a vraiment complètement subjugués sur la manière, l'ingéniosité avec laquelle cet objet est pensé, quoi. Et puis la volonté aussi de remettre un peu au goût du jour ces attractions, l'attraction foraine en elle-même, c'est-à-dire à savoir tourner en moto sur une paroi verticale en bois. Ces trois premières personnes au début qui ont acheté ce mur, qui l'ont réhabilité. Très vite, Vincent a eu très envie d'apprendre à tourner dedans. Donc c'est avec les souvenirs de Bruno Marchand qui lui avait tourné avec les Lapoumérouli, qui était une famille de forains qu'il avait appris. Donc c'était ses souvenirs qu'il a transmis à Vincent, voilà, pour lui enseigner le pilotage de la moto à l'intérieur de ce mur. Et très vite est arrivé aussi Pierre-Raoul Carnet, qui, voyant que ce mur de la mort est en train de se fabriquer, se dit « Tiens, moi aussi, je me frotterai bien à cette paroi verticale. » Donc ce sont les deux premiers pilotes qui sont formés. Il y a un premier spectacle qui est engagé avec eux. Et puis Bruno Marchand, qui était à l'origine, qui lui portait cette structure avec sa compagnie, décide d'arrêter cette aventure. Et on fait appel à un nouveau comédien. Mais entre-temps, étaient arrivés aussi deux autres pilotes, Jean Carnet et Arnaud Bardel, voilà, qui se sont formés. C'est une espèce de binôme un petit peu qui se suivaient de très près et qui ont suivi leurs apprentissages ensemble.
Qui dit spectaculaire dit forcément des normes de sécurité. Comment vous faites pour le faire réviser ?
Alors déjà, ce qui n'a pas été facile, c'était de le répertorier. Parce que on connaît les chapiteaux, on connaît les gradins, mais le mur de la mort, en fait, c'est ni un chapiteau, c'est ni un gradin, c'est une structure qui est très particulière. Donc ça a été une sacrée prise de tête, en fait, au départ. Et puis on n'y connaissait rien du tout, et donc il a fallu quand même faire pas mal de démarches et s'initier à ça, quoi. Et donc, c'est une structure maintenant, ce qu'on appelle un ERP, quoi. C'est un établissement qui est habilité à recevoir du public. Il est classé en CTS, chapiteau ton structure. Et comme toutes ces structures, on passe une sorte de visite médicale tous les deux ans. Voilà.
Vincent, au niveau des bécanes, comment vous les modifiez peut-être pour ce type d'exercice ?
Un petit peu, il n'y a pas grand-chose. C'est des... Donc, on a des motos qui datent des années 70-80. Il n'y a pas de grosses modifications dessus, à part la transmission où on met une couronne plus grande à l'arrière pour avoir un confort pour pouvoir rouler dans le mur. Après, on enlève le frein avant parce qu'on n'en a pas besoin. Il ne faut surtout pas freiner dans un mur. Et on râpe un pneu parce qu'on roule que sur la moitié du pneu, donc on prépare notre pneu pour ça. Après, on bloque nos accélérateurs pour pouvoir lâcher les mains et faire des acrobaties. Mais sinon, les motos sont pas vraiment préparées. Il n'y a pas vraiment une grosse préparation pour ça.
Comment se déroule un entraînement pour la première fois, par exemple ? Je suppose qu'il y a des gamelles à la clé à tout va. Quand on se lance, il faut le faire quand même dans cette paroi. Comment on fait pour appréhender tout ça, les probables chutes et être au point après moult tentatives ?
Alors ça se fait pas du premier coup, c'est vrai, parce qu'il y a déjà, vu qu'on tourne dans un cylindre qui fait 7 mètres de diamètre, et avant d'attaquer la paroi verticale, on a un plan incliné qui est à 45 degrés, et on s'entraîne déjà sur ce plan incliné, déjà à passer le tournis, parce qu'on a très vite le tournis. Donc il y a tout un entraînement pour se faire la tête, c'est ce qu'on, dans notre langage de pilote de mur, de se faire la tête. Et déjà la première étape, c'est passer ce tournis. Après, il faut arriver à se diriger. Donc on a des petites combines et donc c'est une structure en bois qui est sur du métal. Donc il y a plein de rangées, il y a des rangées de boulons. Notre regard se dirige vers ces rangées de boulons pour savoir où se placer, arriver à avoir des trajectoires propres. Et après des entraînements, effectivement, faut arriver à rouler sur cette paroi verticale. Et là, faut vraiment avoir un déclic et à un moment donné, faut y aller. On n'a plus le choix et il faut y aller. Et moi, le souvenir toujours que j'ai de la première fois que j'ai pu passer du plan incliné sur cette paroi verticale, je crois que j'ai eu ce souvenir, même que je ne me souvenais pas quand j'étais tout petit et qu'on a enlevé mes petits trous sur mon vélo. Et je crois que j'ai eu cette liberté-là de découvrir quelque chose. Donc on redevient aussi, on est des grands enfants dans ce mur de la mort et c'est vraiment un endroit où on joue avec beaucoup de risques. Il faut beaucoup de concentration, c'est très physique, mais c'est quand même un terrain de jeu assez exceptionnel. On est quatre pilotes, après, bon, il y a toute une... Le spectacle se passe dans la cuve, mais aussi sur la parade avant, où on a aussi tenu à avoir cette tradition foraine, où il y a un bonimenteur qui vient raconter et attirer le public vers nous. Donc le spectacle se passe à l'extérieur de la cuve au début, sur la parade devant le mur, et après se passe à l'intérieur. Mais je crois que je ne vais pas tout raconter non plus parce qu'il y a une histoire et je ne peux pas tout dire.
Ouais, c'est l'effet de surprise. Vous avez essayé d'intégrer en fait une trame scénaristique, c'est ça, votre spectacle, sans trop dévoiler la chose.
Oui, sans trop dévoiler le spectacle. Non, comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait cette volonté de réhabiliter un peu le théâtre forain. Ce qui peut être aussi un piège par rapport à ce mur de la mort, c'est qu'on peut très vite tomber dans le spectaculaire, parce que c'est quelque chose qui est assez sensationnel de voir ces pilotes et tout ça. Mais surtout, nous, ce qu'on a retenu là-dedans, c'est qu'on trouvait ça hyper beau, quoi. Mais vraiment, il y avait une très belle, très grande poésie, en fait. Et on a eu envie de tirer, en fait, ces prestations moto vers ça. Et donc, il y a eu un travail qui s'est fait d'écriture, comme l'a dit Vincent, où au début, on est un petit peu dans la tradition du théâtre de tréteaux, quoi, dans la rue, comme ça, où on alpague un peu les gens, les spectateurs. Il y a Julien Defaille qui est comédien, qui travaille aussi avec nous, qui a un rôle quand même hyper important aussi au milieu de ces pilotes, parce que Il y a effectivement ses prestations, ses numéros, mais il y a aussi la personne qui les, voilà, qui les coordonne, qui les fait se mouvoir dans cet espace, donc c'est aussi important. Et ce comédien, on lui a donné aussi un texte. Et donc ça raconte une histoire. On a eu envie donc, de tirer cette poésie qu'on ressentait très fortement en voyant ces motos évoluer sur les parois. Et on a scénarisé un petit peu, on raconte une histoire, parce qu'on est parti vraiment de la base en fait. On s'est dit voilà, ce mur de la mort, c'est un objet, qu'est-ce que c'est que cet objet quoi? Par qui il a été fabriqué? C'est qui ses inventeurs? C'est qui ses architectes? Et la question essentielle, comment les motos d'école sont tombées? Et on est parti sur une sorte de scénarisation autour d'un personnage qui s'appelle le professeur Defayovski et qui est un chercheur en mécanique quantique et qui se pose la question, qui a rencontré ses énergumènes, ses pilotes et qui va essayer de trouver les applications de ces théories scientifiques à travers toute une succession de numéros.
Donc c'est un mélange de... On pourrait dire de spectacle, de poésie, mais aussi de science.
C'est un peu ça, oui. C'est ce qui, oui, parce qu'en même temps, on était aussi dans... Il y a quelque chose dans la moto qui est de l'ordre de la pesanteur, de la force centrifuge. Ça ramène à des questions toutes essentielles comme celle-ci, ouais.
Alors pour les auditeurs qui n'ont jamais vu le mur de la mort et qui vont y assister probablement ces prochains soirs, lors du festival Tous dehors, comment on les place en fait les spectateurs? Là on est au centre même du cylindre.
Alors c'est une configuration qui est très très particulière. Un mur de la mort, c'est effectivement un cylindre de 7 mètres de diamètre et qui monte jusqu'à plus de 4 mètres de haut. Et le public prend place en hauteur. Donc il gravite des escaliers, il y a deux escaliers de chaque côté de la cuve, les gens sont invités à monter. Les gens sont debout, il faut savoir que le spectacle dure 45 minutes, mais en tout, vraiment, du début de la parade, donc après la prestation à l'intérieur, ne dure pas 45 minutes en intérieur, donc les gens peuvent rester debout sans problème. Les gens sont debout, au coude à coude, autour de la cuve, donc il y a aussi une relation comme ça, très, je sais pas, très humaine, quoi.
Très proche.
Proche, ouais, ouais,
de proximité.
De proximité, d'intimité, comme ça. Il faut savoir qu'un mur de la mort, ça grince. Ça sent le gasoil, ça sent les gaz d'échappement, ça fait du bruit et ça vibre. Donc les gens qui sont à 4 mètres de haut ressentent aussi toutes ces sensations.
Peut-être pour les petits spectateurs, préconiser des bull cases pour ne pas endommager les oreilles. Ou ça peut aller au niveau du boucan d'enfer que vous pourriez émettre.
Alors c'est vrai que les motos... on a fait en sorte qu'elles fassent un petit peu plus de bruit qu'à l'origine, mais ça reste quand même raisonnable.
Est-ce que vous produisez hors le territoire français? Est-ce que vous êtes appelé, en Europe, ou voire même un peu partout dans le monde?
Alors, on a été en Italie il y a quelques années. Après, on a des contacts, oui, pour aller sur des festivals... sur des festivals à l'étranger.
En Suisse, en Belgique.
En Allemagne aussi, on avait eu des contacts. Après, des murs de la mort, il en existe aussi ailleurs. Et donc c'est intéressant aussi parce qu'on regarde, maintenant c'est facile aussi avec Internet et tout ça, et nous on va voir aussi, je sais qu'il y a des Anglais, des Allemands qui ont des murs. Et puis, c'est des choses vraiment particulières, mais ça fait même presque partie d'une famille, même si c'est des gens qu'on ne connaît pas, on se connaît sans se connaître. Et nous, on a même rencontré des petits-fils de gens à qui même appartenait ce mur. Et quand ils rentraient dans le mur, ils disaient que c'était leur mur, tous les gens qu'on roulait même dans ce mur. Et on a rencontré plusieurs, même pilotes et tout ça. Il y a toujours une identité. Je pense que quand on est rentré dans un mur de la mort, qu'on a roulé dans un mur de la mort, même s'il ne nous appartient plus, il nous appartient toujours.
Mais c'est le seul qui a cette particularité. Hein. Il y a d'autres murs de la mort, vous l'avez dit, de par le monde. C'est le seul qui a cette particularité historique.
C'est le seul qui date des années 30. Quand on a dégoté notre mur, nous, en 2004, il n'y avait plus aucun forain qui se produisait dans des murs de la mort en France, à notre connaissance, en tous les cas. Et depuis 2 ans, il y a la famille Schmitt qui a construit un nouveau mur de la mort. On a rencontré aussi Christophe Verdine qui s'est construit aussi un mur de la mort. Mais donc, ce sont des constructions récentes, quoi. Or, effectivement, celui que nous, on a dégoté est un mur ancien. Voilà ce qui fait la différence. Mais on était hyper contents aussi de voir qu'il y avait des gens, d'autres personnes qui se remettaient à reconstruire des murs et à vouloir tourner dedans. Ouais.
Profitez-en, chers auditeurs, si vous êtes amateurs de sensations fortes. Il y a plusieurs représentations sur 3 jours, c'est bien cela. Donc on peut vous retrouver ce vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 à 16h, 18h et 20h, c'est bien ça ?
C'est ça, c'est exactement ça.
Très bien, merci à vous deux.
Merci à vous.